Laudetur Jesus Christus.
Journée de deuil au Liban, un an après l'explosion sur le port de Beyrouth. Le pays est exsangue, plongé dans une profonde crise politique, économique et humanitaire. Les plus vulnérables ne survivent que grâce à des initiatives de solidarité. Reportage dès le début de ce journal. Les talibans poursuivent leur offensive en Afghanistan. Un attentat suicide a frappé hier Kaboul, la capitale, faisant 5 morts. Dans le sud du pays, les combats entre l'armée et les insurgés font toujours rage. Les habitants de Lashkarga ont été appelés à évacuer. 40 civils ont été tués dans cette ville. Au sommaire également, la crise sécuritaire en Haïti, aux prises avec la violence des gangs. Les équipes de Médecins Sans Frontières ont annoncé leur retrait du centre d'urgence de Martissant à Port-au-Prince après 15 ans de présence. Et dans notre dossier, gros plan sur le rapprochement entre la France et l'Italie, un nouvel axe influent qui se dessine en Europe, un traité bilatéral devrait être signé à l'automne, analyse en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, c'était il y a un an, le 4 août 2020, un peu après 18h, une double explosion sur le port de Beyrouth ravageait une partie de la capitale libanaise, faisant 216 morts et 6500 blessés. Le quartier de Jeitaoui, populaire et dense, a été le plus touché. L'aide humanitaire s'est organisée dès le lendemain de l'explosion et un an après le drame, alors que l'enquête n'a toujours pas abouti, de nombreuses initiatives se poursuivent dans les rues pour soutenir les habitants acculés par la crise économique. Le reportage d'Anaïs Renevier.
Dans cette cuisine du quartier populaire de Jeitaoui, trois fois par semaine, des bénévoles s'activent et préparent 150 repas pour des personnes âgées. Le projet de solidarité, monté dans l'urgence au lendemain de l'explosion, s'appelle Nation Station. Mazen est l'un des cofondateurs.
Quand on a commencé à Nation Station, on n'a jamais imaginé qu'on serait toujours là un an après. On pensait que ce serait l'affaire de quelques semaines ou deux mois maximum. Mais avec la situation économique et la situation politique qui sont très mauvaises, les besoins d'aide sont de plus en plus importants chaque jour.
Tout manque dans le pays, plongé dans l'une des pires crises économiques de l'histoire moderne. Médicaments, nourriture, dans ce quartier, les plus vulnérables, déjà affectés par l'explosion, dépendent de l'aide des ONG ou des églises pour survivre. Comme Marie, 66 ans.
La chevêche nous donne chaque mois un box, une boîte de tout.
Les bénévoles de Nation Station viennent de planter leur premier potager urbain. Objectif, produire assez de nourriture pour 300 personnes. À contre-courant d'une partie de la jeunesse libanaise, ils veulent rester dans leur pays et le reconstruire, un quartier à la fois. Anaïs Renevier à Beyrouth pour Radio Vatican.
Un an après l'explosion, le Liban observe une journée de deuil ce mercredi. Dans la soirée, une messe sera célébrée par le cardinal Béchar Aboutrosraï, le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. La France organise, elle, aujourd'hui une troisième conférence d'aide internationale destinée à la population libanaise. L'objectif est de lever au moins 350 millions de dollars et d'accentuer la pression sur les dirigeants libanais pour qu'ils mettent un terme au blocage politique. À la une également ce mercredi, la situation en Afghanistan au lendemain de l'attaque suicide à Kaboul, non loin de la résidence du ministre de la Défense qui a fait 5 morts et 20 blessés, l'armée afghane s'organise dans la ville de Lashkarga pour repousser l'offensive des talibans. Ces derniers sont entrés dans la capitale de province de Helmand. Les combats ont déjà fait au moins 40 morts parmi les civils. Les précisions de Jean-Charles Puzzolu.
L'attentat suicide perpétré hier à Kaboul dans un quartier pourtant ultra sécurisé vient un peu plus entamer le moral des troupes. Lundi, le président afghan annonçait l'envoi de forces spéciales à Lashkarga pour tenter de repousser les talibans qui, selon des témoignages, auraient déjà pris le contrôle d'une grande partie de la ville. C'est sur ces forces spéciales entraînées et armées par les États-Unis que compte le gouvernement en dernier recours pour éviter la chute d'une capitale de province. Pour les talibans, s'emparer de Lashkarga marquerait le franchissement d'une nouvelle étape dans la reconquête du pays après une une avancée sans véritable résistance dans les campagnes. À Lashkarga, cependant, l'armée et les rebelles combattent rue par rue, l'aviation afghane bombarde les positions ennemies et les habitants ont été invités à fuir avant la contre-attaque qu'entend mener l'armée afghane. En grande difficulté et déstabilisés par la fin de la présence militaire, les Afghans tentent tant bien que mal de freiner les talibans dans deux autres villes, Kandahar et Herat, les deux plus importantes du pays, après Kaboul.
Jean-Charles Puzolué, ce matin, trois personnes ont été blessées à Kaboul dans l'explosion d'une mine placée en bord de route. Les États-Unis ont condamné sans ambiguïté hier les deux explosions qui ont visé la capitale afghane, évoquant des attentats qui portent la marque des talibans. Le président américain Joe Biden a appelé hier à vacciner l'Amérique et à aider à vacciner le monde. Dans un discours à la Maison-Blanche, il a salué l'envoi de quelque 110 millions de doses à plus de 60 pays, la majeure partie via l'initiative internationale COVAX. Les États-Unis ont annoncé avoir atteint le taux de 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin. De nombreux pays connaissent actuellement une hausse importante des contaminations liées au variant Delta. Israël a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires, élargissant notamment l'obligation du pass sanitaire aux lieux publics fermés. L'île française de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, va elle être reconfinée pour au moins 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Haïti face à une insécurité croissante. La situation est telle que l'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé officiellement son retrait du quartier populaire de Martissant à Port-au-Prince, la capitale. Le nouveau Premier ministre, Ariel Henry, qui a pris le pouvoir après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, a promis de ramener la paix et la sécurité dans le pays. Mais pour l'heure, la situation demeure inchangée. La correspondance régionale de Franz Emmanuel.
La violence s'est définitivement ancrée à Martissant, au grand désarroi des habitants de ce quartier populaire du sud de Port-au-Prince. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs choisi de quitter cette zone, désormais sous contrôle total des gangs, et où la police également a décidé de partir, incapable de réagir à la violence entre bandes rivales. Le coup de pression de Médecins Sans Frontières, fin juin, début juillet, en suspendant ses activités durant quelques jours, n'aura rien changé. Les appels au calme et au respect de la sécurité des activités de MSF n'ont pas été entendu. Aussi, l'organisation humanitaire a décidé de plier bagages définitivement après 15 ans de présence. 300 000 personnes, grâce au bureau MSF de Martissant, bénéficiaient de soins. Près de 300 personnes y travaillaient. L'exemple de MSF, en tout cas, vient démontrer encore une fois toute l'impunité des bandes rivales. Entre janvier et mars de cette année, 142 cas de kidnapping ont été recensés. Près de 50 personnes ont été assassinées par balles. Ariel Henry, le nouveau Premier ministre, entré en fonction le 7 juillet dernier, a promis de ramener la paix et la sécurité. Pour l'instant, il est plutôt difficile d'y croire. Fort de France, François Emmanuel, Radio Vatican.
Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, briguera un 4e mandat consécutif lors des élections du 7 novembre prochain. Sa candidature a été approuvée par le parti au pouvoir à l'unanimité. Face à lui, les adversaires sont peu nombreux. La plupart y ont été arrêtés ces derniers mois par le pouvoir en place. Les explications de Léa Morillon.
Ce scrutin était attendu par l'opposition, mais finalement, Daniel Ortega semble s'être tracé un chemin sans encombre pour briguer un 4e mandat. Le président de 75 ans a été désigné par son parti lundi, candidat officiel à l'élection présidentielle, avec sa femme Rosario Murillo comme candidate à la vice-présidence du pays. Face à eux, peu d'adversaires. 31 dirigeants politiques et militants anti-gouvernementaux ont été arrêtés et emprisonnés au cours des 2 derniers mois, dont 7 candidats potentiels à l'élection. Ils sont accusés de trahison à la patrie en vertu des lois adoptées fin 2020. 2 candidats affronteront néanmoins l'ex-guerriero. Le premier s'appelle Oscar Sobalvaro. C'est un ancien contrat anti-sandiniste opposé à Ortega pendant la Révolution. L'homme de 68 ans a choisi comme colistière Berenice Quesada, une ancienne Miss Nicaragua sans antécédents politiques connus. Le deuxième, Milton Arcia, est chef d'entreprise. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup les soupçonnent d'être de mèche avec le pouvoir, puisqu'ils n'ont pas été arrêtés comme les autres candidats de l'opposition. Ces élections, qui verront également le renouvellement du Parlement, sont prévues pour le 7 novembre prochain. Léa Morillon pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, sachez que le pape François, après la pause de juillet, reprend ce 4 août ses rencontres du mercredi avec les fidèles lors de l'audience générale. Un rendez-vous à suivre en direct dès 9h15 avec commentaire en français. Hier, l'intention de prière du pape pour ce mois d'août a été rendue publique. Elle porte sur l'Église en chemin. La vocation de l'Église, plus encore son identité, c'est d'évangéliser, a rappelé le Saint-Père. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.com. Après la rivalité, place à l'amitié. Un nouvel axe de pouvoir se dessine en Europe. Des deux côtés des Alpes, on assiste à un réchauffement des relations entre la France et l'Italie. Et alors que la chancelière allemande, Angela Merkel, quittera ses fonctions fin septembre, ce tandem Paris-Rome s'annonce de plus en plus influent à Bruxelles. Du sommet franco-italien de Naples en 2020 à la visite d'État de Sergio Mattarella en France au début de l'été, les relations ont été plus que relancées. Service civique commun, convergence de vues sur la Libye, sur la révision fiscale européenne et d'autres questions sociales, économiques et budgétaires. Emmanuel Macron et Mario Draghi, les deux dirigeants, s'apprécient en outre personnellement. Un traité bilatéral devrait donc être signé au Quirinal à Rome à l'automne pour sceller cette amitié historique et peser le plus possible dans le jeu européen. Les explications du politologue italien Giuseppe Bettoni, maître de conférence à l'université Tor Vergata de Rome.
Les temps des mésentendus, je dirais, dus à la coalition giallo-verde, comme on dit en Italie, sont désormais définitivement clos. Et on revient à des rapports qui sont naturellement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, très forts, très étroits, mis à part à des désaccords de nature industrielle, commerciale. Après cette période un peu délicate, nous renouons finalement sur plusieurs dossiers des rapports très forts et avec une évidente volonté des deux côté des Alpes.
Sur quel dossier justement ces points de convergence voient-ils plus le jour ?
Un dossier intéressant, c'est déjà le cas de la Libye où on est très loin d'avoir atteint vraiment un niveau d'accord définitif, mais le fait de se reconnaître une présence, un rôle, nous amène déjà très loin de quand Macron invitait les représentants libyens à Paris sans même pas informer l'Italie de cela. Donc on est dans une autre situation. L'autre concerne aussi des questions de fiscalité, mais déjà la volonté de faire un service civil pour les jeunes en commun, c'est à mon avis un élément très important dans le futur. Sous la fiscalité, France et Italie ne sont pas tout seuls. C'est important d'y aller ensemble. Et à niveau européen, c'était un terrain d'affrontement difficile. Et là aussi, on a trouvé un accord. On s'est vu du même côté de la barrière dans l'intérêt d'une nouvelle vision européenne.
L'on parle aussi de ce traité d'amitié bilatéral à l'automne, signé entre Paris et Rome au Quirinal. Est-ce qu'il serait inspiré du traité franco-allemand de l'Élysée ?
C'est sans doute le même type de traité. Et ce n'est pas au hasard si cela se fait maintenant. D'abord parce que nous venons, France et Italie, d'une période assez délicate, comme dans le premier gouvernement Conte, mais on se retrouve avec une situation plus aléatoire de ce qui va se passer aux élections en Allemagne. Donc renforcer ce qu'il y a déjà est important pour se préparer à des nouveaux rapports, à de nouvelles personnalités. Ce qui va se passer en Allemagne, même si on avait une même alliance de gouvernement, ça va être totalement révolutionnaire. Et c'est nouveau pour tous les pays. Personne n'a connu au gouvernement actuel une autre personnalité qui n'était pas Angela Merkel.
Et il y a aussi cette relation très personnelle entre Mario Draghi et Emmanuel Macron, les similarités entre les deux hommes.
Les deux ont travaillé pour des banques, les deux connaissent d'une manière très importante qu'est-ce que c'est les contraintes économiques et financières d'un grand pays. Mario Draghi a été un gouverneur qui a laissé la marque dans la banque européenne, qui connaît Macron depuis très longtemps dans plusieurs dossiers, de plusieurs points de vue. N'oublions pas que nous vivons dans deux pays, en France et en Italie, avec une fiscalité moyenne qui dépasse le 30%, alors qu'une multinationale était taxée en Hongrie à 9%. Et donc, il faut trouver un accord entre partenaires parmi ces poids lourds, Italie, France, Allemagne. On doit aller parfaitement en accord pour espérer de porter le projet européen dans un sillage qui puisse avoir le moindre lien avec l'Union européenne qu'on avait bâtie il y a 70 ans. Le traité du Quirinal n'est pas un météorite qui arrive au hasard. Et vraiment la prise de conscience qu'il faut un travail commun. C'est fini l'époque des rapports qui doivent être basés sur la courte période et sur l'existence d'un tel personnage plutôt qu'un autre. Il faut revenir à des accords de plus longue période qui puissent tenir d'une manière ou d'une autre une certaine continuité au-delà du profil qui gère ou conduit un pays.
Interrogé par Delphine Heller, Giuseppe Bettoni, politologue à l'université Tor Vergata de Rome, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous à 13h. Très belle matinée. Au revoir.